Chapitre 38. Méandre mort. 2h24, la Chapelle Bleue, Caudebec en Caux. Le commissaire Gustave Paturel écarta sans ménagement les policiers affairés à examiner d'éventuelles traces de pas sur le sol et s'avança vers l'inspecteur Stépanou. Il ne jeta pas un regard à Maline et Oreste, ne semblant même pas les remarquer. Il était sous le coup d'un choc violent. Il lança brusquement. On est dans la merde, Ovid. On vient de retrouver un autre marin assassiné. Ovid encaissa la nouvelle. Maline et Oreste tendirent l'oreille. Le commissaire continua d'une voix saccadée. Il a été assassiné à Rouen, sur les quais, sur le pont de son bateau, le Mire. La victime s'appelle Sergueï Sokolov. Elle était de garde ce soir sur le Mire. Les passants, les autres marins du Mire ont d'abord cru qu'il dormait. C'est pour cela que l'alerte n'a pas été donnée tout de suite. Ça s'est passé quand ? Demanda immédiatement Stépanou. Le commissaire prit une profonde inspiration. Il regarda les policiers s'affairer. La plupart n'étaient sans doute pas encore au courant de la seconde découverte macabre. Le commissaire hésitait. Quelque chose n'allait pas. Enfin, il se lança. Colette Cadinot est sur place, mais Zinguel est introuvable pour l'instant. Enfin, on peut se débrouiller sans lui, ce n'est pas là le problème. Il y a un légiste aussi sur place. Il a déjà pu estimer assez précisément l'heure de la mort. Le légiste est formel, il est arrivé peu de temps après le décès, et Sergueï Sokolov a été vu vivant par les autres marins du Mire sur le pont à 1h15 lors de sa ronde. Pour le légiste, il n'y a aucun doute. Le coup de couteau mortel a été porté au cœur entre 1h30 et 1h45. La stupéfaction marqua le visage d'Ovid, Maline et Oreste. Entre 1h30 et 1h45. Ils savaient tous que Pascas Soupanji avait été assassiné ici à 1h30. Son corps avait été retrouvé par la gendarmerie de Caudebec en Caux à 1h40. Le corps était encore chaud. Le coup mortel venait d'être porté, moins d'un quart d'heure avant. Les légistes n'avaient aucun doute. Le commissaire se tourna vers le panorama de la Seine comme pour s'adresser directement au fleuve. « Vous avez compris ce que cela signifie. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. » Un premier matelot, Pascas Soupanji, est assassiné ici, à la Chapelle Bleue, à Caudebec-en-Caux, à 1h30. Pendant le même temps, Sergueï Sokolov est poignardé sur le Mire, sur les quais de Rouen, également à 1h30. Les légistes se donnent au maximum une marge d'incertitude d'un quart d'heure. Sachant qu'il y a au bas mot 40 km entre Caudebec-en-Caux et Rouen, au minimum 40 minutes de route, une évidence s'impose. Il prit une profonde inspiration. « Nous n'avons pas affaire à un assassin. Nous avons affaire à deux tueurs différents. » Les policiers s'agitaient comme des fourmis avant l'orage. Maline semblait perdre pied. Tout se brouillait dans sa tête. Deux assassins différents ? Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier ? Les crimes n'étaient donc pas commis par un tueur isolé ? Ils étaient programmés, organisés, coordonnés. Par qui ? Par combien de personnes ? Quand cette folie allait-elle prendre fin ? L'inspecteur Stépanou, au contraire, gardait son calme. Du moins, il le laissait paraître. Il ne sembla pas particulièrement surpris. La piste de la chasse partie, du complot pirate, s'ouvrait à nouveau. Se déployait sur un océan de mystères. Il aimait cela.
« Et le mode opératoire ?» demanda Stépanou au commissaire. « Il est le même pour l'assassinat de Sergueï Sokolov ?»«
Rigoureusement le même !» confirma le commissaire.
Un coup de couteau en plein cœur. Inutile de te préciser que Sergueï Sokolov avait tatoué sur son épaule 5 animaux. Le requin, le crocodile, l'aigle, le tigre et la colombe.
Et la marque au fer rouge ?
Le commissaire sembla faire un effort de mémoire ou se perdre dans ses pensées. Il prit un temps avant de répondre.
C'est la seule différence avec les deux autres meurtres.
Sergueï Sokolov a simplement été poignardé, mais aucun tatouage sur lui n'a été brûlé. Ovid Stépanou prit également le temps de réfléchir, regardant successivement Maline, Oreste et le commissaire. Il tira ses conclusions à haute voix.
Le meurtrier a assassiné Sergueï Sokolov en pleine armada. À plus d'une heure du matin, certes, les quais commencent à être plus clairsemés. Il était assez simple de passer devant le matelot en faction devant le Mire, de s'approcher, de le surprendre, de lui planter un couteau en plein cœur sur un quai quasi désert, de s'éloigner en laissant le matelot dans une position laissant penser qu'il dormait. Mais déshabiller le marin, Se munir d'un tison chauffé au fer rouge, brûler la chair, était évidemment impossible devant le mire, sur des quais encore fréquentés.
Le commissaire Paturel semblait exténué. On est dans la merde, vide. Dès demain, la presse va se déchaîner. Ça va être l'exode pour les touristes sur les quais et la ruée pour les chaînes de télévision du monde entier. Putain, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Deux assassins, le même mode opératoire. Ovid Stepanou ne cédait ni à la panique, ni au désespoir. Plus l'affaire s'embrouillait, prenait un tour sordide, plus il semblait à l'aise. Il en rajouta même.
« Deux assassins, Gustave, ou peut-être même davantage. Même mise en scène, même mode opératoire. Sans vouloir jouer les troubles faits, tout porte à penser que nous n'avons pas affaire à des meurtres isolés, mais à une organisation criminelle. On s'est trompé, Gustave. Les tatouages ne représentent pas des matelots isolés, ils représentent des équipages. Le Cuauhtémoc, le Dewahouchi, le Mir. Je me suis trompé. La chasse partie a pu ne pas seulement être contractée entre quatre matelots. Elle a pu l'être entre tout un équipage pirate. Combien ? Quelques dizaines d'hommes ? Davantage encore ? »
Le commissaire s'avança d'un mètre, domina l'inspecteur Stepanou de toute sa corpulence et expulsa une partie de sa tension.
« Fais pas chier, Ovid. Fais pas chier ce soir. Fais pas chier avec tes théories à la con de sectes, de pirates anarchistes. Deux tueurs sur les bras, c'est déjà bien assez, tu ne crois pas ? On va se concentrer sur ces deux meurtres. Cherchez les deux tueurs et tu joueras les Cassandres plus tard. »
Ovid Stepanou ne se vexait jamais. Il avait parfaitement intégré le fameux syndrome de Cassandre, le syndrome de celui qui connaît la vérité, mais qui est condamné à ce que personne ne le croit. En mettant en garde le commissaire, il avait fait son devoir. Il revint à des éléments plus concrets de l'enquête.
« Ok, Gustave, on verra ça plus tard. Revenons aux deux meurtres. On a pas mal d'éléments, ne l'oublions pas. Malina Brudze a vu le visage d'un des membres de... Enfin, disons, d'un des coupables présumés. » On a aussi des échantillons du sang d'un des deux meurtriers, celui de Pasca Supanji. On va pouvoir identifier son ADN. Ce n'est pas un fantôme.
Gustave Paturel enchaîna.
Colette m'a dit qu'il y avait également du sang sur l'uniforme de Sergueï Sokolov, sur son cou et ses mains. D'après ce qu'elle m'a dit, il n'avait pas l'impression que c'était le sang du marin russe. Les traces de sang laissaient penser que son meurtrier était blessé, qu'il avait perdu son sang en le frappant. De toutes les façons, ils ont lancé les analyses ADN là-bas aussi.
Maline gardait le silence. Des camions de gendarmerie commençaient à repartir, sans sirène, comme pour ne pas réveiller les voisins. Précaution inutile. Tous les résidents proches étaient sur le pas de leur porte. Elle enregistrait toutes les informations de l'enquête. Deux assassins. Lequel des deux tueurs était l'homme blond qu'ils avaient poursuivi hier ? Était-ce réellement l'un des deux tueurs ou la prochaine victime ? Elle en doutait maintenant. Une main se posa sur son épaule. L'inspecteur Stepanou lui jeta un regard doux.
« Mademoiselle Abruzze, vous voulez bien nous suivre dans le camion de la police scientifique ? Nous allons essayer de dresser un portrait robot de l'homme que vous avez vu hier. »
L'inspecteur lui lança un sourire amical de toutes ses dents pourries.
« Je viens avec elle, » fit Oreste. « Je l'ai croisée, moi aussi. »
Ils redescendirent la route. Maline jeta un coup d'œil vers le sombre méandre du fleuve, aussi sombre que ses pensées. La chapelle bleue, comme toutes les chapelles des marins de la Seine, avait été élevée en remerciement à la Vierge, pour un miracle, quelques vies sauvées lors d'une tempête. Une chapelle pour quelques vies sauvées, mais pour combien d'épaves au fond de la Seine, de morts noyés au fil des siècles, de cadavres au fond du fleuve. Quelques plaques de marbre dans une église, pour combien de poussières d'os dans le lit du fleuve. Tous entrèrent dans le LAMAS garé en bas de la côte de la Bariva. Oreste et Maline s'arrêtèrent, surpris par la surenchère de technologie concentrée dans le laboratoire scientifique mobile. Quatre policiers en blouse blanche s'affairaient sur des écrans d'ordinateur. On avait tiré un rideau au fond du camion. Maline comprit qu'on devait déjà, derrière le rideau, être en train de pratiquer l'autopsie du corps de Pasca Supanji, à moins de 3 mètres d'elle.
Le camion n'est pas à nous, précisa le commissaire. Faut pas croire. C'est la police scientifique d'Île-de-France qui nous le prête pour l'occasion. Maintenant, je me dis qu'on aurait dû en demander deux.
ils firent s'installer Maline et Oreste devant un large écran d'ordinateur. Un homme en blouse blanche, plutôt jeune et attentionné, qui ressemblait davantage à un ophtalmologue qu'à un flic, commença à s'occuper d'eux. Rapidement, malgré toute la patience du jeune policier, l'expérience se révéla infructueuse. Maline, et plus encore Oreste, avait à peine aperçu l'homme à la moto. Maline n'avait pas imprimé son visage dans sa mémoire, juste une couleur de cheveux, une taille. Ils aboutirent à un résultat très improbable, un portrait qui n'avait vraisemblablement aucune chance de s'approcher de la vérité, et encore moins de permettre à une tierce personne de reconnaître l'homme à partir de ce dessin morphologique. Avec une infinie patience, pourtant, l'ophtalmo-flic insistait. Maline se sentait épuisée. Il était plus de 3 heures du matin. Elle n'arrivait plus à rien. Elle n'arriverait à rien de mieux. Elle était en train de chercher un moyen poli pour demander au policier d'arrêter de la torturer lorsqu'un des flics en blouse se leva avec un regard de possédé. Il avait des lunettes en écaille et le teint grisâtre des poissons des profondeurs, sans doute pour avoir passé trop de temps dans son camion sans voir le soleil. « Commissaire, venez voir ça. On a un sérieux problème. » Le commissaire et tous les autres occupants du camion s'approchèrent. Le scientifique jouait nerveusement avec ses lunettes en écaille. Il leur indiqua 2 écrans plats d'ordinateur posés côte à côte. « Vous voyez, » fit-il, « sur l'écran de droite, c'est l'électrophorégramme, le profil ADN, si vous préférez, du meurtrier de Pascal Supanji. Il provient du sang que l'on a recueilli sur les graviers et sur le corps de la victime. Si je veux être plus précis, il s'agit du sang frais de quelqu'un qui se trouvait sur les lieux du crime à l'heure de la mort de Pascal Supanji et qui a perdu son sang à côté et sur la victime. On a donc toutes les raisons de penser qu'il s'agit de l'assassin. » Tous visualisaient à l'écran une complexe série de courbes de 4 couleurs. « Une série ADN ne se présente pas comme une série de lettres ?» demanda Oreste. Maline soupira. Ce n'était pas le moment de jouer le journaliste chiant. Le scientifique aux lunettes d'écaille le toisa d'un air supérieur et expliqua sommairement, d'un air de professeur blasé par la médiocrité de ses élèves, « La série de lettres, comme vous dites, ce sont les initiales des 4 nucléotides qui forment l'enchaînement de l'ADN. A pour adénine, G pour guanine, T pour thymine, C pour cytosine. Mais depuis les méthodes de séquençage automatique, on utilise ce qu'on appelle une chromatographie, des marqueurs fluorescents, si vous préférez. Adénine en bleu, thymine en vert, guanine en jaune, cytosine en rouge. » On obtient un électrophorégramme qui permet de lire beaucoup plus simplement les résultats et de comparer les ADN. Il se pencha en avant et déplaça la flèche de la souris. Donc, ici, sur cet écran, vous avez l'électrophorégramme du meurtrier de Pascal Supanji. Il réajusta ses lunettes, vira encore un peu plus vers le gris et continua. L'équipe scientifique de Rouen vient de nous envoyer ses résultats par le net. Mêlés au sang de la victime, Sergueï Sokolov, ils ont retrouvé d'autres traces de sang sur son uniforme, sa peau, autour de la plaie aussi. Des traces de sang frais, là encore. Comme personne d'autre que son assassin n'a approché Sergueï Sokolov, alors qu'il était de garde devant le mire, dans l'heure qui a précédé sa mort, nous avons toutes les raisons de penser, là aussi, qu'il s'agit du sang de son assassin. Il fit glisser sa souris sur l'écran de gauche et continua la démonstration. Je vous rappelle que sur l'écran de droite, nous avons l'électrophorégramme du sang frais trouvé sur le lieu du crime, la Chapelle Bleue, à Côte-Bec-en-Caux, et à l'heure du crime, 1h30. Sur l'écran de gauche, nous avons l'électrophorégramme du sang frais versé à la même heure, entre 1h30 et 1h45, mais à 40 km de là, sur les quais de Rouen. Tous eurent le même réflexe, comparer les 2 écrans. Le doute n'était pas permis. Les ellipses fluorescentes de l'électrophorégramme étaient rigoureusement identiques. « Nom de Dieu !» fit Ovid Stepanou. « Vous ne vous êtes pas planté de fichier ?» demanda le commissaire. « Non, » répondit sobrement le scientifique. D'un clic de souris, il fit glisser l'image de l'écran de gauche sur celle de l'écran de droite. Les 2 courbes se superposèrent jusque dans le moindre détail. « La bonne nouvelle, commissaire ?» continua le flic aux lunettes d'écaille, « c'est que nous n'avons pas affaire à 2 assassins différents. C'est le même individu qui a assassiné Pascal Supanji et Sergueï Sokolov. La mauvaise, c'est que toute ma technologie ne peut expliquer comment cet individu a été capable de poignarder à la même heure un homme à Côtebec-en-Caux et un autre sur les quais de Rouen.
« Arrêtez vos conneries !» hurla soudain Oreste. « Un même type ne peut pas tuer deux personnes différentes à deux endroits différents exactement à la même heure !»
L'inspecteur Ovid Stepanou fixait les deux écrans fascinés.
« Apparemment, si. »